Nous sommes un pays jeune, donc nous essayons de fonder une nation. Et nous avons l'ambition, évidemment, de devenir un pays développé comme les autres. Mais pour le développement, il faut la sécurité et la stabilité.
Face à toutes les difficultés de nos populations liées à la pauvreté, nous avons bénéficié régulièrement de l'aide de l'Union européenne.
Le Niger aujourd'hui est un des pays les plus pauvres du monde. Alors là, il faut questionner vraiment l'efficacité de cette aide publique au développement.
C'est l'un des grands pays du Sahel, l'un des plus pauvres aussi, enclavé entre d'immenses voisins, 7 pays frontaliers dont certains sont particulièrement instables ces dernières années, le Mali, la Libye, le Nigeria avec la menace Boko Haram. Et pourtant, c'est un État en paix qui se dirige vers une élection présidentielle en février 2016 qui devrait être démocratique. Le Niger, puisqu'il s'agit de lui, a su stabiliser ses institutions, mais il fait face à des défis sociaux et économiques immenses, à commencer par la natalité galopante, puisque c'est le pays où le taux de fécondité est le plus élevé au monde, 7,6 enfants par femme en moyenne. Pays très jeune, il pâtit aussi d'un système éducatif défaillant. Selon l'UNICEF, 52% des garçons âgés de 15 à 24 ans savent lire et 23% seulement des filles du même âge. La malnutrition est également un fléau. Il meurt encore 114 enfants de moins de 5 ans sur 1000 naissances. En France, le chiffre est de 4 morts pour 1000. Et pourtant, ce taux de mortalité au Niger a été presque divisé par 3 en un quart de siècle. Il y a donc de réels progrès. L'Union européenne en particulier a décidé d'aider de façon substantielle le Niger. Elle est le premier bailleur de fonds du pays pour lutter contre la misère, bien sûr, mais aussi pour prévenir l'immigration clandestine en Europe, car 90% des migrants qui traversent la Méditerranée sont passés un jour par ce pays situé au centre du Sahel. Niger, quand le pays s'éveillera, c'est un reportage signé Valérie Crova. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous sommes en duplex avec Charles Goerens, député libéral au Parlement européen. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes membre du groupe ALDE, où siègent notamment les centristes français. Vous avez été aussi président du Parti libéral au Luxembourg. Et vous avez été au Luxembourg également ministre de l'Environnement, de la Coopération et de l'Action humanitaire, ainsi que de la Défense. Alors il faut que je remercie bien sûr la radio 100,7 au Luxembourg, qui vous accueille aujourd'hui et qui nous permet de faire ce duplex. Et nous sommes ici en studio avec Valérie Crova. Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Vous rentrez du Niger, où vous avez pu voir comment concrètement l'Union européenne aide ce pays.
Oui, en fait, j'ai accompagné sur place Neven Mimisa, qui est le commissaire européen en charge de la coopération internationale et du développement. Alors, en dehors des rencontres avec les officiels, il s'est rendu sur plusieurs sites autour de Niamey, la capitale, des sites où intervient l'Union européenne à travers des projets qu'elle subventionne, que ce soit dans le domaine de la sécurité alimentaire, du développement rural, de l'éducation ou encore de la santé. Le panel est très large, mais vous allez l'entendre, il y a parfois un décalage avec la réalité dans un pays empreint de traditions ancestrales comme le Niger.
On écoute votre reportage, Valérie, qui démarre sur le fleuve Niger, dans la région de Tillaberi.
Pourquoi il y a des hommes armés avec nous là ? Il y a des risques ici, non ?
C'est une région de rébellion. La rébellion malienne n'est pas loin. Nous sommes à la frontière malienne.
À combien de kilomètres ?
Peut-être 200 kilomètres à peu près. Sait-on jamais. Voilà. En brousse, ils peuvent être sur le fleuve aussi, il faut faire attention. Il faut faire très attention.
C'est la rébellion malienne Hakimi ?
Hakimi, Moujao, tout et tout. Voilà. Garde les doigts croisés. Voilà.
Donc voilà, on va prendre une pirogue, on va traverser le fleuve. Qu'est-ce qu'on va faire ?
On va normalement aller voir le projet financé par la coopération européenne. Voilà.
Ici, bon, et quelqu'un vient ici, un troisième ici.
Donc nous sommes sur le fleuve Niger, ou si vous voulez le Djoliba, qui est...
Ça c'est le nom nigérien.
Ouais, qui est le deuxième plus grand fleuve d'Afrique après le Nil d'Égypte. Donc le fleuve Niger prend sa source depuis la Guinée qu'on a créée, dans le Fouta Djallon. Et il traverse plusieurs pays, dont effectivement le Niger, le Mali... Et il se jette dans l'océan Atlantique.
La vie économique du Niger, elle est organisée en fonction du fleuve Niger ?
Oui, il y a quand même une grande population, en tout cas riveraine du fleuve Niger, qui vivent de ce fleuve, notamment à travers le maraîchage, puisqu'il y a de l'eau à proximité, mais aussi et surtout, il y a beaucoup de pêcheurs qu'on appelle les sorcos. Donc, ils ne connaissent que la pêche. Donc, ils vivent grâce au fleuve. C'est une activité, on peut dire, qui est menacée. Pourquoi ? Parce que nous avons quand même la jacinthe d'eau. La jacinthe d'eau qui est une réelle menace pour le fleuve, mais aussi nous avons l'ensablement. Et très malheureusement, il n'y a pas de... les politiques ne prennent pas les mesures nécessaires pour essayer de sauver ce fleuve. Parce que ça fait quand même des décennies que la jacinthe d'eau est là sur le fleuve et est en train de le menacer. Mais vous avez aussi l'ensablement du fleuve aussi qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait aussi des décennies. Donc c'est des réelles menaces qui sont là. Ce sont les deux principales menaces pour ce fleuve.
Donc là, on arrive de l'autre côté de la rive.
Oui, on arrive de l'autre côté de la rive. Il y a des gens qui nous accueillent, il y a tout un comité d'accueil, je vois environ une centaine de têtes. Donc ils vont certainement nous servir de guide pour nous montrer les différentes réalisations, ce qu'ils font réellement sur le terrain.
Des réalisations faites grâce à l'Union européenne ?
Grâce à l'Union européenne. Malabdou, hey, Malan Abbas.
Oui, c'est un site maraîcher en fait qui a fait l'objet d'appui, qui a bénéficié des appuis du PROMAP, cofinancé par l'Allemagne et l'Union européenne. Voilà, là c'est les bénéficiaires exploitants du site en question, des jeunes, des femmes, des hommes. Voilà, ils vont pouvoir nous expliquer les différentes cultures qu'ils y font et puis les revenus qu'ils en tirent et puis le changement que tout ça a dû apporter dans leur vie quotidienne.
Mbida est un village pionnier. Sur des petites parcelles de terre, les agriculteurs cultivent des tomates, des choux, du riz, des oignons, mais aussi du piment ou encore du gombo, un légume très apprécié en Afrique. Ici, on a adopté le maraîchage tout au long de l'année, y compris l'hiver, ce qui permet de produire des légumes pendant la saison des pluies, quand les étals des marchés sont peu garnis. Les gains sont d'autant plus importants pour celles et ceux qui bénéficient de ces programmes de culture maraîchère et qui, du coup, ne voient plus l'intérêt de partir travailler ailleurs.
Donc, il dit, par le passé, il produisait le tabac. Donc, après la récolte, il voit que l'intérêt qu'il tire n'est pas important. Donc, finalement, il a abandonné, il est parti au Nigeria en exode. Et après 6 années, il s'est dit, bon, est-ce que s'il évalue, s'il essaie de faire une activité maraîchère ici, l'intérêt qu'il tire, est-ce que c'est plus profitable que d'aller au Nigeria? Donc il l'a essayé la première année.
Donc,
il a dit, il a fait 6 années, 3 années de suite qu'il ne part plus, il restait faire la production maraîchère. Et il a vu que c'est profitable, il a même pu s'acheter une moto avec, et c'est pourquoi maintenant, définitivement, il s'est fixé.
Il a peut-être une famille, il a combien d'enfants ?
Une femme, 5 enfants.
D'accord.
Il dit maintenant, il est tellement satisfait que l'année passée, il a acheté une moto, cette année, il va faire une deuxième femme.
Avec cet argent qu'il a gagné, ça lui permet d'envoyer ses enfants à l'école ?
Il dit oui, effectivement qu'il paye la scolarité, il paye les frais de traversée du fleuve, c'est ça qu'il prend en charge, comme ils sont dans l'école publique.
Avec l'argent qu'il a gagné ?
C'est l'argent de la production maraîchère.
Il y a eu 5 à 6 bacheliers, 6 bacheliers, c'est-à-dire des parents d'élèves à cause de la rentabilité du maraîchage là. Paye la scolarisation de leur enfant.
Le maire du village de Mbida.
Il paye. Imaginez quelqu'un qui paye à son enfant en classe de première ou terminale. Et la classe par an, ça fait dans les 100 et quelques mille francs. Donc, ce village-là, ils ont compris. Actuellement, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas pu réussir au collège, qu'ils sont en train de payer dans les établissements privés.
Ok. Bonjour madame.
C'est elle qui est la trésorière de le mouvement
africain. Elle s'appelle comment cette dame?
Dibo Abdoulaye.
Qu'est-ce qu'elle fait alors ici?
Elle
dit qu'elle est productrice maraîchère.
Il y a beaucoup de femmes qui font cela ici apparemment.
Il y a à peu près 70
à 80 femmes font de la production maraîchère ici à Mbida.
Qu'est-ce que ça a changé dans leur vie de faire ça?
Elles
disent qu'auparavant, elles étaient contraintes de s'asseoir, d'attendre que les maris les prennent en charge. Elles ne font rien, elles sont assises. Maintenant, avec l'activité, elles trouvent leurs revenus, elles font d'autres opérations avec.
Elles sont autonomes, c'est de l'autonomie. Voilà. Est-ce que vous pensez que le fait de travailler, ça va un jour modifier la condition de la femme?
Donc, elles parlent toujours de l'autonomie. Comme maintenant, elles travaillent, elles ont des ressources. Donc, elles sont autonomes. Elles peuvent donc faire leur propre opération avec leurs ressources. Donc, déjà, c'est un changement qu'elles ont subi.
Est-ce que pour elles, c'est plus important de travailler ici pour ses enfants ou que ses filles aillent à l'école? Qu'est-ce qui est le plus important?
Elle dit que c'est l'école qui est mieux pour elle. Qu'elle porte à l'école, c'est mieux.
L'école, c'est mieux.
C'est mieux.
Vous êtes allé à l'école, vous?
Aïe, voilà.
Elle n'a jamais été à l'école. Mais là, ses enfants sont en train d'aller à l'école.
Nous nous éloignons des rives du fleuve Niger pour prendre la direction de Tillaberi. Nous avons rendez-vous dans une maternité. La population nigériane double tous les 20 ans. La croissance démographique exponentielle est un enjeu de taille car elle freine le développement économique du Niger. Le docteur Memouni est le médecin-chef du district sanitaire de Tillaberi. C'est quoi l'âge moyen des jeunes femmes qui viennent ici? Est-ce que vous avez une idée?
Je reçois beaucoup de jeunes femmes. Très jeunes qui viennent accoucher. Et d'ailleurs, l'activité gynéco-obstétricale, c'est ces jeunes femmes-là très jeunes. Des fois, on a jusqu'à 14 ans, 13 ans, pour lesquelles on est obligé d'aller faire cette activité chirurgicale que la césarienne. Et on a aussi des femmes un peu. Bon, chez nous, quand on a 45 ans, on dit que la femme est âgée parce qu'ils continuent à faire des enfants. Donc, ça varie entre 13 ans et des fois 45 ans. Qu'on reçoit ici.
Les accouchements se font de moins en moins à la maison?
Oui. Non, ici, en milieu urbain, il n'y a plus d'accouchements à la maison. Les accouchements qu'on trouve à domicile, c'est dans les coins très reculés où il n'y a pas de formation sanitaire. Sinon, les accouchements se font de moins en moins à la maison. Du fait qu'on continue à sensibiliser, on continue à leur parler de différents problèmes. Elles sont au courant de beaucoup de problèmes et surtout la gratuité.
Est-ce que c'est vous qui préconisez ou des moyens contraceptifs par la suite ou c'est indépendamment du service?
Il y a les deux. Chez certaines femmes où médicalement c'est indiqué, ça va de soi que nous on propose la contraception. Mais il y a beaucoup, et c'est de manière spontanée, elles viennent d'elles-mêmes demander le repos. Ils font le counseling et choisir leur proposer les différentes méthodes de contraception.
Ce que vous appelez repos, c'est on n'a pas d'enfant pendant quelque temps, c'est cela?
Oui.
On espace les grossesses.
Oui, j'utilise le terme repos parce que c'est le terme qu'elles utilisent. Nous, on dit espacer, mais elles disent elles veulent se reposer.
Et les jeunes femmes, elles sont favorables à la prise de moyens contraceptifs de façon générale ou...
Oui, celle à qui j'ai proposé, je n'ai vu aucune femme qui a refusé.
Bonjour. Il est né quand?
Atalata,
le mardi.
Est-ce que je peux lui demander si c'est son premier enfant?
Ah, c'est son premier enfant.
Elle a quel âge?
Elle a 23
ans.
Elle veut combien d'enfants?
Elle veut combien d'enfants?
Tu sais que Dieu lui donne. Quand elle attend de bon Dieu, combien elle va lui donner?
Mais ça dépend de Dieu ou de son mari?
C'est Dieu qui décide.
Il faut l'allaiter.
Bon,
Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Maman, c'est pas comme ça. Hein. C'est comme ça. Attends. La main du bébé doit être là-bas. Voilà.
Voilà. Génial. C'est comme ça.
Bonjour.
This name.
Please, enfants.
Pourquoi autant d'enfants?
Imagine pas.
C'est pour qu'ils prennent soin d'elle, elle dit. Nehaya Marganti, elle a 23 ans. C'est son deuxième gosse.
C'est son mari qui veut beaucoup d'enfants ou c'est elle qui veut beaucoup d'enfants?
C'est elle-même qui veut les 10 gosses.
Dans sa famille, elle a combien de frères et sœurs?
Elle a des petits frères. Elle a 8 petits frères. Et elle, la 9e.
Donc en fait, dans sa famille, on a déjà, sa maman a déjà eu beaucoup d'enfants. Elle veut faire comme sa maman.
Elle est en train de sourire seulement. C'est ça.
Je m'appelle Dr Samna Salamata. Je suis la directrice régionale de la santé publique de Tillabéri, région de Tillabéri dans le Niger.
Il faut quand même changer des habitudes qui sont ancestrales. Comment ça se passe pour vous? Parce que ce sont des traditions qui remontent à loin, oui. Le fait d'avoir des enfants, beaucoup d'enfants au Niger.
Oui, mais pour ça, donc c'est les sensibilisations que nous faisons. Au Niger, je crois que nous avons utilisé non seulement les leaders d'opinion, ce qu'on appelle leaders d'opinion, par exemple les marabouts. Les marabouts, c'est eux qui enseignent le Coran, qui enseignent les traditions religieuses. Donc on est arrivé à leur expliquer la nécessité de faire l'espacement des naissances. Et eux-mêmes, ils ont pu trouver ça au niveau de la religion pour montrer que même traditionnellement, avant, les femmes n'accouchaient pas facilement après avant 2 ans. Mais traditionnellement, ils arrivaient à avoir des méthodes pour ne pas accoucher. Il y a des familles qui séparaient la femme du mari pour qu'elle ne puisse pas avoir une grossesse précoce. Il y a des familles qui font ça. Et il y a des gris-gris avant que les gens mettaient. Et il y a aussi l'allaitement exclusif qui se faisait, maternel, pour que la femme ne puisse pas accoucher rapidement. Donc c'est traditionnellement même, ils avaient ça. Mais maintenant, nous avons eu le moderne qui est plus contrôlable. Donc on va vers eux, on fait les radios communautaires, c'est-à-dire les radios qui sont de leur visage. Ils font des débats, ils font des explications. Et nous avons ces leaders surtout qui font des prêches pour permettre aux hommes de comprendre qu'il faut espacer les naissances.
Et ça marche.
Et ça marche, mais il faut renforcer encore. Parce qu'il y a la jeunesse qui est là, il faut aller vers la jeunesse. Et c'est pour cela que nous avons même des centres qu'on appelle centres amis des jeunes, des séances de causerie avec les jeunes sur les radios, pour permettre aux autres aussi de comprendre ce que c'est. Et vraiment, on fait tout pour informer d'abord tout le monde de ces méthodes, comment elles sont, et aussi de la disponibilité de ces contraceptifs gratuitement dans toutes les formations sanitaires du pays, à tous les niveaux. Et aussi, ce qui est très important, on a vu, il y a les statistiques qui ont montré, plus la femme est instruite, moins elle a d'enfants, plus elle utilise les services de santé pour elle-même, pour sa famille, pour son enfant, et ce qui veut dire qu'elle utilise la PF aussi pour pouvoir espacer les naissances. Donc nous avons ces défis-là. Pour pouvoir réduire le taux d'accroissement, nous pensons d'abord qu'il faut aller à l'instruction de la femme, surtout. Donc l'objectif vraiment c'est d'amener à ça. Nous pouvons faire beaucoup de choses.
Il faut aussi la coopération des hommes. Et vous avez une école du mari.
Oui, parce que vous avez la contraception, bien sûr, c'est la femme qui va utiliser, mais l'accord de l'homme est très important. Et c'est pour cela que les écoles du mari ont été mises en place dans notre région pour nous permettre d'avoir beaucoup plus d'hommes qui comprennent les choses. Plus l'homme comprend, puisque vous savez, ici, l'homme, c'est lui le responsable du foyer.
Mais où ici? Comment s'appelle le village?
Sona. Maintenant, on voit l'école de Marie.
Nous sommes l'équipe d'encadrement des écoles de Marie. Et...
Je vais saluer les chefs.
Oui. Il faut venir saluer les chefs. Matarongo.
De grandes nattes sont disposées sous un arbre pour protéger les visiteurs du soleil brûlant. Les chefs coutumiers sont assis quant à eux sur des chaises, alignés les uns à côté des autres dans leurs habits traditionnels.
Ici, nous avons les leaders d'opinion, les chefs, les marabouts.
C'est par eux que vous passez pour diffuser les messages?
Oui, par eux, on passe aussi pour améliorer la fréquentation ici-là. Oui.
Une trentaine d'hommes sont venus écouter les discours. Ils portent fièrement des sacoches estampillées École des Maris. Il y en a 6 dans la région de Tillabéri. Issaka Soulé est agriculteur et volontaire pour participer à l'École des Maris. Qu'est-ce qu'on apprend dans votre école ?
Dans notre école, nous nous rassemblons chaque début du mois pour dégager un thème. C'est à partir de ce thème que nous allons faire les sensibilisations dans les foyers. Et nous nous rendons chez les chefs de ménage, c'est-à-dire les maris, non pas les femmes, les maris. C'est à eux que nous nous adressons pour qu'ils puissent apporter leur soutien afin que ces maris-là puissent inciter leurs femmes à utiliser les centres de santé.
Est-ce que dans les thèmes que vous abordez, il y a la contraception par exemple ?
Bon, nous, il y a la contraception, mais nous, on ne parle pas exactement de la contraception. On parle sur l'EPF, c'est-à-dire l'espacement de naissance. Nous sommes là pour aider nos communautés. Nous sommes des volontaires. Nous aidons notre communauté. C'est à nous d'aider nos communautés. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des chefs de famille, ce sont eux qui sont des maris modèles. Et ce sont eux qui s'adressent aux maris de ménage. Donc les maris de ménage aussi, eux aussi s'adressent à leurs femmes. Et les femmes aussi vont passer l'information de maison en maison. Comme ça, toute la communauté sera informée. Moi, j'ai 11 enfants.
Combien d'enfants vous avez ?
J'ai 11 enfants. J'ai fait 3 femmes. J'ai fait divorcer les deux. Il me reste un maintenant. Actuellement, je suis avec une femme. Je suis monogame maintenant. J'ai fait la polygamie. J'ai fait la trigamie. Mais actuellement, j'ai une femme.
Merci beaucoup.
Oui, des relais et autres. Donc, tu laisses les chefs évoluer.
Qu'est-ce qu'elle pense de l'école des maris ? Est-ce qu'elle pense que ça fait changer les choses pour les femmes ? Est-ce que ça peut faire changer les choses pour les femmes ?
L'école des maris les aide pour la CPN, consultation prénatale. Il les sensibilise encore de venir accoucher dans les centres de santé. Et encore pour la CPON, c'est fait au 8e jour de la naissance. C'est pour détecter les anomalies de l'enfant et de la mère.
Moi, je m'appelle Nafissatou Salou.
Nafissatou.
Comme vous venez de voir, une mère de 26 ans qui a 4 enfants et elle souhaite avoir aussi encore 4 enfants. Donc, peut-être dans 35 ans, 40 ans, elle peut avoir 8 enfants. Donc, comment elle peut faire pour nourrir ces 8 enfants-là avec un père cultivateur, une mère ménagère? En tout cas, il faut un changement.
Et ça contribue à changer cette école-là?
Oui, l'école de Marie est là pour ça, pour changer les femmes, les maris d'abord, parce que c'est eux le chef de la maison. Si le mari dit à la femme, il faut aller au centre de santé pour prendre des contraceptions, pour planifier les grossesses. Donc, la femme va aller. Ce que moi, je souhaite, que toutes les mères nigériennes souhaitent avoir au maximum 3 enfants. D'ici 2030 ou 2030 et quelques. C'est ce que moi, je souhaite.
La visite du commissaire européen Neven Mimissa et de sa délégation ne passe pas inaperçue dans le village de Fakara. Ici, l'Union européenne finance des banques céréalières qui s'avèrent fort utiles en période de crise alimentaire, comme le Niger en connaît régulièrement.
Monsieur le commissaire au développement de l'Union européenne, monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernorat de Dosso, monsieur le préfet du département de Bouboué, Mesdames et messieurs, à vos titres, grades et qualités, au nom des populations de la commune rurale de Fakara, je suis honoré de prendre la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à Cordo, monsieur le commissaire au développement de l'Union européenne. Merci pour ce choix de notre commune pour votre visite dans le Niger profond. La commune rurale de Fakara est située dans le département de Boboy, région de Dosso. Elle est distante de 65 km à l'ouest du chef-lieu de département et 70 km de Niamey, la capitale. La commune rurale de Fakara renferme d'importantes potentialités en ressources agro-pastorales, marquées par la présence des aires de pâturage, des ressources en eau, mares permanentes et semi-permanentes et des terres agricoles assez importantes. Mais ces potentialités sont de plus en plus menacées à cause des sécheresses successives, conséquences évidentes du changement climatique. Face à toutes les difficultés de nos populations liées à la pauvreté, nous avons bénéficié régulièrement de l'aide de l'Union européenne. C'est le lieu où, au nom de toute la population du Fakara, d'exprimer notre reconnaissance et nos remerciements à l'endroit de l'Union européenne et vous demande par la même occasion de continuer cette aide de plus que par le passé. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie et vous souhaite à vous tous un bon retour dans vos foyers respectifs.
Merci, monsieur le maire de la commune rurale de Fakara. Monsieur l'assistant technique, si vous êtes prêt.
Alors, le projet d'appui au développement du secteur rural d'Osso, il y a 130 réalisations de micro-subventions à hauteur de 445 261 129 francs CFA, soit 675 796 euros. Ces 130 réalisations sont composées essentiellement de 58 banques céréalières, de 6 boutiques d'aliments à bétail, 7 magasins de stockage, 35 périmètres maraîchers, 240 hectares de terres dégradées qui ont été aménagées. Il y a eu la réalisation de 4-5 km de bandes pare-feu, 100 hectares de terres récupérées. Donc, Excellence, en conclusion, les populations bénéficiaires de ces réalisations se réjouissent de l'amélioration de leurs conditions de vie et réitèrent leur sincère remerciement à l'Union européenne pour les appuis multiformes qu'elle ne cesse de leur apporter. Elle souhaite l'extension du projet aux communes des départements qui ne sont pas encore touchés, notamment Djundjou, Gaya et Tibiri, pour répondre également aux besoins élémentaires. Je vous remercie.
Merci. Merci l'assistant technique du projet d'appui au développement du secteur rural. Excellence, monsieur le commissaire au développement.
It was equally important to me today to come here to the region.
Le commissaire, il est particulièrement heureux d'avoir eu l'occasion de venir ici sur le terrain, faire cette visite sur le terrain, de voir Dosso, donc la région de Dosso, ce village, et d'avoir le contact avec les populations, et surtout voir à quel point l'agriculture, la résilience, grâce à l'aide de l'Union européenne, contribue au bien-être des populations.
This is one of the key objectives of the so-called Agir.
Ces crises récurrentes liées au choc climatique, au changement climatique et aux difficultés que vous subissez trouvent vraiment une réponse extrêmement importante dans le cadre du programme de l'Union européenne Agir, qui améliore la résilience et des populations. Et donc le commissaire attache énormément d'importance à ça et il est très heureux d'avoir pu observer et vu ça, ces réalisations ici sur le terrain.
So we are determined to continue to support to continue with the project.
Le commissaire et donc l'Union européenne donc sont déterminés à que des projets comme celui-ci dans le domaine de l'amélioration, la résilience de l'agriculture et donc de l'amélioration donc de la situation des communautés et des populations par rapport à ces chocs climatiques soit poursuivi. Donc, il s'engage à que des projets comme ça, dans le domaine de l'agriculture et de la résilience, soient poursuivis et renforcés à l'avenir.
Thank you very much.
Retour à Niamey. Le centre Agrimet n'a rien à envier au campus universitaire français. C'est ici que sont formés les futurs cadres des pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest à la sécurité alimentaire et au développement durable. Grâce aux derniers outils technologiques, le centre Agrimet assure également un suivi météorologique et hydrologique pour toute la sous-région.
Ok, donc là nous sommes dans notre salle de télécommunication. C'est ici que nous recevons, nous avons nos chaînes de traitement satellitaire pour recevoir tous les types de données que nous manipulons pour les besoins de sortie de nos produits. On a mis en place, ça c'est grâce au Fonds Union Européenne, un projet qu'on appelle MESA, Monitoring Environment for Security in Africa. Ça nous permet de manager tout le continent africain et de voir tous les types de données en temps réel grâce aux données météo-sat. Et les thématiques ici utilisées, on peut voir la végétation, la température, l'ensoleillement, etc. en temps réel. Là, par exemple, je vous ai affiché l'image de la végétation à la troisième décade du mois d'août 2015. Donc, nous avons toutes ces données pour l'ensemble du continent. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la chaîne ouest africaine. Donc, nous pouvons faire le fenêtrage pour suivre donc, c'est l'évolution de ces indicateurs. On suit la végétation chaque 10 jours. On fait un résumé de toutes les données qu'on reçoit. On suit cette végétation, c'est ça le rainfall. On suit les feux de brousse en temps réel. On peut vous dire à tel moment, dans telle région, il est en train d'avoir un feu de brousse. On suit les cours d'eau. Et toutes ces informations sont stockées ici dans une base de données régionale que nous gérons pour l'ensemble des 17 pays de la CEDEAO. Nous donnons des produits et services pour les pays. On va dire, par exemple, attention, si vous ne faites pas attention, dans telle zone, il va y avoir une inondation parce qu'il a plu en une semaine 200 mm dans une zone. Ça peut être dangereux. Donc, il y a des informations comme ça. On peut dire, attention, dans cette zone, il n'y a pas beaucoup de végétation. Redirigez vos pâturages ailleurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de pâturages ici. Voilà les informations que nous, on donne au pays. Et actuellement, dans notre budget Agrimet, l'Union européenne participe pour 50% à peu près. Notre budget annuel de 2015, qui est autour de 10 milliards, l'Union européenne a financé autour de 6 milliards, sur les 10 milliards de l'année, à peu près, 55%. Donc, je suis là avec le responsable financier qui me confirme cela. Donc, l'Union européenne participe à hauteur à peu près de 55% dans notre budget de fonctionnement.
Le colonel Mamadou Aboutarka dirige la Haute Autorité pour la Consolidation de la Paix. Créée en 1995, au moment de la rébellion Touareg dans le nord du Niger, la Haute Autorité, qui dépend directement de la présidence de la République, aurait dû disparaître du fait des accords de paix qui ont été signés avec les Touareg. Mais sa mission a été poursuivie en raison de la situation explosive dans la région.
Maintenant, quel est le défi de notre gouvernement? Le premier défi, évidemment, c'est celui de consolider l'unité nationale. Nous sommes un pays jeune, ça fait à peu près 50 ans que nous sommes indépendants, donc nous essayons de fonder une nation dont les valeurs sont la démocratie, la République, le droit de tous les citoyens, l'égalité des citoyens devant la loi, et nous avons l'ambition, évidemment, de devenir un pays développé comme les autres. Mais pour le développement, il faut la sécurité et la stabilité. Lorsque vous regardez autour de nous, il y a l'instabilité en Libye. Vous connaissez également la situation du Mali, qui a été divisée en deux pendant longtemps. Il a fallu l'intervention de la communauté internationale pour ressouder le pays. Nous avons 600 km de frontière avec le Mali. Et vous connaissez un peu la situation du Nigeria, notre voisin du sud, avec lequel nous avons plus de 1000 km de frontière et dont la partie nord-est échappe à l'État et est sous la coupe de Boko Haram. Alors, malgré tous ces dangers qui nous entourent, nous avons pu garder un havre de paix et de tranquillité. Parlons maintenant des migrants. Comment est-ce que la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix est intervenue dans la question des migrants? C'est un peu par hasard, parce que ce n'est pas notre mission principale. Mais comme nous nous sommes occupés des zones que nous appelons les zones vulnérables de notre pays, les zones où la présence de l'État est faible. Ces zones sont le nord de notre pays, l'est de notre pays, le nord-ouest de notre pays. C'est donc les zones sahéliennes et sahariennes. Il se trouve également que ce sont ces zones que traversent les migrants pour aller en Afrique du Nord et après en Europe. Donc, puisque nous nous occupons de ces zones, la question de la migration s'est imposée à nous, bien évidemment. Pour lutter contre la migration, il y a deux piliers sur lesquels il faut agir. Le premier, évidemment, c'est donner la possibilité aux forces armées et aux forces de sécurité intérieure, à la douane, à la police, à la gendarmerie, à la garde, d'être capables de contrôler les frontières et de contrôler les zones du Nord. Nous sommes un pays pauvre, nous n'avons pas toujours cette capacité. Et donc nous attendons effectivement à ce que nos partenaires nous renforcent dans cette capacité à tenir les postes frontaliers. Et nous travaillons beaucoup avec l'Union européenne, avec les Français également, pour le faire, pour augmenter cette capacité. Le deuxième pilier pour bien lutter contre la migration, c'est de renforcer la résilience des communautés des zones migratoires. Parce que les migrants, quand ils viennent du Ghana, ils ne connaissent pas le chemin, ils ne connaissent pas le pays. Ils vont donc compter sur la complicité des gens qui sont dans ces zones, des nomades en général. Si nous donnons la possibilité à ces nomades d'avoir une autre activité économique moins dangereuse que celle de se livrer au transport des migrants, évidemment, ils vont le faire. Alors, nous avons une expérience dans ce domaine puisque nous avons fait ce qu'on appelle des projets socio-économiques en direction des jeunes, en direction des femmes, pour stabiliser les sociétés qui pourraient supporter le terrorisme.
Jama'are hetinibe habaruji duniya do radio alternative ngettio.
Bienvenue sur la radio alternative 99.4 FM.
مرحبا بكم الى راديو alternative.
Un portrait de Che Guevara et d'Hugo Chavez orne les murs du petit studio de la radio alternative qui se veut dans la mouvance altermondialiste. Tous les jours, des émissions sont diffusées dans différentes langues, comme le Zarma ou l'Aoussa, parlé par plus de la moitié des Nigériens.
Ici, on rame à contre-courant en quelque sorte par rapport aux autres radios, parce que ici, vous êtes peut-être, vous le savez peut-être, mais ça a été fermé à plusieurs reprises par le pouvoir, parce que justement, les émissions développées, les discours, très souvent, vont à l'encontre de la politique ou du comportement de nos dirigeants, quoi. Donc, à ce sens, parfois, donc, ça les chatouille et donc, parfois, ils ont tendance à se montrer très, très dictateurs par rapport à. Voilà. Et donc, lui-même, le secrétaire général, et lui-même, Albert, ils ont été arrêtés à plusieurs reprises.
C'est vrai, nous sommes un média critique, mais on peut dire tout, mais on ne peut pas nous dire que nous défendons les idées de l'opposition ou bien machin. Donc. Mais nous faisons ce travail avec beaucoup de professionnalisme.
Okay, merci vraiment, Ali.
Albert Chebou est journaliste. Il a été arrêté quelques heures l'an dernier, après avoir organisé un débat sur la cherté de la vie. Un sujet d'intérêt général qui ne prêtait guère à polémique, mais le débat a été assimilé à un appel à l'insurrection par les autorités nigériennes.
Aujourd'hui, nos pays connaissent une crise de souveraineté. Et je pense qu'on n'a pas besoin, après plus de 50 ans d'indépendance, d'être toujours à la traîne du monde et surtout d'être, si vous voulez, les suppôts de l'Occident et des autres pays qui nous ont colonisés, comme la France, par exemple, pour le cas du Niger. C'est un pays qui a l'uranium, c'est un pays qui a le pétrole, c'est un pays qui a l'or et d'autres richesses. Nous sommes un pays d'élevage. Nous sommes un pays d'agriculture, nous avons le fleuve Niger, nous avons beaucoup de ressources, nous avons une population jeune. Donc ça, ce sont vraiment des éléments qui peuvent nous permettre de nous passer de l'aide publique. Mais malheureusement, nous sommes maintenus toujours dans la pauvreté et le Niger aujourd'hui est un des pays, sinon le pays le plus pauvre du monde, selon le classement des Nations Unies, du PNUD.
Malgré l'aide au développement, donc ça veut dire que l'aide au développement, elle, pour l'instant, elle n'est pas très efficace.
Oui, parce que je pense qu'elle est, elle est mal utilisée. On ne sait même pas où est-ce que va cette aide. Vous avez eu l'occasion de parcourir quelques localités, quelques programmes financés par l'Union européenne, etc. Mais c'est des choses qui se passent depuis des années. Mais on ne voit pas les changements. Il y a toujours la pauvreté, il y a toujours les problèmes de santé, il y a toujours les problèmes d'éducation, il y a toujours les problèmes d'eau potable. Alors là, il faut questionner vraiment l'efficacité de cette aide publique au développement.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis ?
Il faudrait d'abord, je pense à mon avis, comme je vous ai dit, nous sommes un pays qui exploite l'uranium. Depuis près de 50 ans, la France, à travers Areva, exploite l'uranium dans le nord du pays. Nous avons aujourd'hui, depuis quelques années, du pétrole qui est exploité par une compagnie chinoise. Nous avons aussi de l'or ici dans la région de Tillabéri, etc. Mais il faut qu'il y ait la transparence sur la gestion de ces ressources qui viennent justement de ces industries extractives. Souvent, les populations riveraines où on exploite ces ressources sont dans la pauvreté extrême. On ne peut pas comprendre. Allez-y à Arlit, vous allez voir, où on exploite l'uranium depuis 50 ans. La route qui relie Tawa Agadez ou Agadez Arlit, il n'y a même pas de route aujourd'hui. Le bitume est complètement cassé. C'est tellement difficile pour les gens de se déplacer pour aller. Si vous allez à Arlit, vous allez trouver une ville poussiéreuse, une ville où la majorité de la population est extrêmement pauvre. Voilà des questions sur lesquelles on doit quand même débattre et avancer. Parce que si les ressources du pays sont bien gérées, sont bien réparties, je pense qu'on aura moins de problèmes et on ne va pas trop tendre la main vers l'extérieur. On sera, du point de vue, en tout cas économique, un pays qui peut émerger.
Serrer la main dans la main, encore Niger, toujours c'est mon pays. Niger, encore c'est mon pays. Niger, encore c'est mon continent. Il y a la richesse ici au Niger. Et à la paix, le travail progresse. Merci.
Voilà, vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture Niger, quand le pays s'éveillera. C'était un reportage au Niger signé Valérie Crova, réalisé par Annie Brault. Et nous sommes toujours en duplex de la radio 100,7 au Luxembourg avec l'eurodéputé centriste libéral Charles Goerens. Je rappelle, monsieur, aussi que vous êtes porte-parole pour le groupe ALD, Alliance des démocrates et des libéraux au Parlement européen, pour les questions de développement qui concernent notamment l'Afrique. On a bien compris à travers les multiples exemple qu'a pu voir Valérie sur le terrain que l'Union européenne aide très concrètement et de façon substantielle le Niger. Je voulais citer un chiffre en préambule de notre discussion, le 11e Fonds européen de développement pour les années 2014-2020 a voté, je pense, vous allez me corriger si je fais erreur, mais 596 millions d'euros qui sont destinés déjà au Niger. Et on voulait vous poser une première question. Est-ce que c'est une somme très importante comparativement aux autres pays africains, et pourquoi l'Europe, finalement, est-elle le premier bailleur de fonds du Niger ?
L'Union européenne est le premier bailleur de fonds du Niger parce que le Niger ne peut pas encore s'en sortir tout seul. Et fidèle au principe de différenciation, l'Union européenne a tendance à concentrer davantage son aide qui lui est disponible à ceux des pays qui sont dans un développement encore très inférieur. Donc les pays émergents vont plutôt à l'avenir recevoir de l'assistance technique, et les pays très peu développés comme le Niger, qui est l'un des plus pauvres pays de la planète, va recevoir à la fois de l'assistance technique et bien entendu des fonds importants. C'est la raison pour laquelle vous arrivez à ce montant, auquel on peut aussi, le cas échéant, ajouter des apports de la Banque européenne d'investissement, parce que sur l'ensemble des 30 milliards réservés pendant la période de 2014 à 2020 aux pays en développement, l'Union européenne va aussi s'ajouter encore un apport de 2,6 milliards de prêts de la Banque européenne d'investissement.
Alors on vient d'entendre à la fin du reportage de Valérie, un journaliste qui est très critique, qui appartient à une radio alternative et qui finalement met en cause l'efficacité de cette aide européenne. Que peut-on lui répondre ?
On doit lui répondre que le développement, ce n'est pas l'Union européenne qui développe, ce sont les Nigériens eux-mêmes qui se développent. C'est pas à nous de développer les autres, ça c'est un reliquat de l'ère coloniale, c'est à eux de faire leur choix, c'est à eux d'indiquer leurs préférences, c'est à eux d'identifier les plages de développement qu'ils veulent offrir un partenariat avec l'Union européenne. Et puis c'est à nous de nous entendre avec eux sur les rôles à attribuer à chacun, mais le rôle de l'Union européenne ne peut être qu'un rôle accompagnateur.
Ça veut dire que vous ne fléchez pas, par exemple, tout l'argent que vous donnez. Enfin, comment exercez-vous quand même peut-être un contrôle sur les axes de développement ?
Mais il faut que les idées soient claires dans le chef des pays récipiendaires. Si, par exemple, si on prend à titre d'exemple le projet de développement intégré qui prévoit des interventions dans le domaine de la santé, c'est au Niger de dire, voilà notre carte sanitaire, c'est là où nous voulons avoir un hôpital. Cet hôpital doit être complémentaire avec un hôpital qui est situé à 100 ou 200 km plus loin. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est donc au pays récipiendaire d'avoir les idées claires sur son propre développement, de définir ses priorités, et ensuite c'est à l'Union européenne de voir si les demandes exprimées par le pays récipiendaire sont conformes aux règles de déboursement de l'Union européenne et si elles rencontrent les capacités d'intervention de l'Union européenne.
Une question de Valérie Crova.
Oui, Monsieur Gorens, on entend parler à plusieurs reprises de résilience des populations. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette expression de résilience ?
Oui, c'est un terme général qui veut dire en fait on doit s'adapter à des situations nouvelles. Résilience en matière de changement climatique, ça veut dire que ces pays seront exposés à des crises de plus en plus fréquentes. Donc il va falloir adapter les modèles de production, donc mieux résister aux aléas de la nature, par exemple. Ça, c'est de la résilience.
Alors comment surveillez-vous pour revenir à l'efficacité, de la façon dont sont dépensés ces fonds de l'Union européenne ? Là, Valérie Crova a suivi le commissaire Mimica, qui est donc allé sur place, il a vu des projets très concrets. Est-ce que vous j'imagine qu'il n'y va pas tous les six mois. Donc quel type de surveillance peut exercer l'Union européenne sur cet argent qu'elle donne au Niger ?
Alors il y a un contrôle donc interne de la Commission d'abord. Il y a un contrôle des États membres qui très souvent font des programmations conjointes avec la Commission. Donc l'Union européenne, c'est en fait 29 acteurs de développement. La Commission plus les 28 États membres. Et les 28 États membres sont invités à faire des programmations conjointes avec la Commission. Donc vous avez tous les organes de contrôle parlementaires, Cour des comptes de toutes ces instances, et de l'Union européenne et des États membres qui interviennent. Ajoutez à cela le contrôle parlementaire, et j'espère aussi le contrôle parlementaire du pays partenaire. Il faut que les parlementaires du Niger assument leurs responsabilités ensemble avec la société civile qui est en éclosion et dont le développement a été prévu par l'accord de Cotonou qui prend son début en l'an 2000. Donc vous avez un ensemble de monitoring, de contrôle parlementaire, institutionnel, qui limite quand même le gaspillage et le détournement de fonds. Il faut bien entendu que ces évaluations et ces contrôles soient intelligents, qu'ils répondent aux critères de pertinence, d'efficacité et aussi de durabilité. Un projet ou un programme ne vaut rien si vous le réalisez en 2015 et qu'en l'an 2020, vous n'avez plus d'impact positif dû à ce projet.
Donc on limite au maximum les risques de corruption, de gaspillage, vous disiez, mais de corruption. Est-ce que vous pouvez être sûr à 100% qu'il n'y a pas de corruption ?
Dans la mesure où la corruption constitue un réel problème, il faut sécuriser les programmes et les projets. Vous n'allez pas accorder le même degré de confiance à un pays qui est totalement corrompu, mais qui a un besoin cruel d'aide. Vous n'allez pas le traiter de la même façon qu'un pays qui se comporte de façon plus vertueuse. L'Union européenne, pour cela, accorde ce qu'il est convenu d'appeler l'aide budgétaire à des pays qui ont une gouvernance digne de ce nom. Donc là, on fait transiter l'argent par le budget de l'État partenaire ou récipiendaire, plutôt que de l'investir dans des projets ou programmes réalisée en co-responsabilité avec les bailleurs de fonds, en l'occurrence l'Union européenne. Donc vous avez là le degré de coopération souhaité et souhaitable dans un pays qui a une gouvernance encore moins développée. Vous pouvez opter pour la dynamique de l'aide budgétaire, donc vous commencez petit à petit. Vous avez des personnes dans l'administration du pays récipiendaire qui contrôlent en fait ces déboursements. Et puis dans les pays où vous ne pouvez pas faire confiance à l'État ou aux structures étatiques ou institutionnelles, vous continuez à réaliser des programmes et le cas échéant des projets. Ou bien vous n'intervenez que dans le domaine purement humanitaire.
Et le Niger, vous le placez dans quelle catégorie ?
Le Niger est un pays qui fait des progrès, mais qu'il faut quand même mettre sous surveillance, bien entendu.
Alors, parmi tous les programmes que Valérie Crova a pu voir sur le terrain, ils sont quand même très divers. Est-ce que vous diriez que le contrôle des naissances, c'est le programme le plus crucial ? Est-ce que vous faites comme ça une sorte de priorisation, quand même ?
Ah, le Niger est un pays qui est caractérisé par des ruptures et des dynamiques. Hein. Les ruptures, c'est par exemple la rupture intergénérationnelle. On a moins besoin des vieux parce que les vieux étaient le symbole de la transmission du savoir oral. Aujourd'hui, vous avez accès à Internet, vous avez d'autres moyens d'information, donc on a moins besoin des vieux. Par contre, vous avez des dynamiques qui restent quand même très fortes, notamment la dynamique démographique, et qui est un vrai problème. Je suis heureux de constater que les autorités publiques du Niger sont conscientes de ce problème et qu'elles commencent à faire leur premier pas en matière de planning familial. Et cet exode, cette poussée démographique est tellement forte que malgré l'exode rural, vous avez encore une augmentation de la population dans les régions lointaines de la capitale. Et en même temps, vous avez une poussée, un gonflement des villes encore plus important. C'est extrêmement important. Prenez un pays qui a une croissance de 5%. Si vous avez un accroissement démographique de 3%, votre croissance économique n'est pas de 5%, mais de 2% en réalité. Ou si vous avez un pays qui a 3% de croissance démographique et 2% de croissance économique, vous êtes en récession. Donc il faut voir aussi un peu les progrès économiques dans ces pays à la lueur, au regard de la poussée démographique. Donc ça, c'est absolument crucial. Vous avez dit au début de votre reportage que le Niger a un taux de mortalité des moins de 5 ans de 114. Quand j'étais ministre de la coopération entre 1999 et 2004, ce taux était à 250. Il n'y avait plus que l'Afghanistan qui avait un chiffre voisin de 250. Ouais. Donc 250 enfants sur 1000 n'atteignent pas l'âge de 5 ans. Alors si vous avez ce taux de mortalité des moins de 5 ans, vous avez un taux qui vous renseigne le plus, un indicateur très performant sur la situation en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'infrastructure, en matière de transport, en matière de coordination et de cohérence des politiques. Quand on place ce taux dans la perspective, on voit, et vous l'avez dit, qu'en moins d'une génération, il a été réduit d'un tiers. Vous pouvez dire qu'on a fait de réels progrès dans ce pays, grâce à la vaccination, grâce à l'accès aux soins, mais il faut aller plus loin, il faut aussi songer.
Mais alors justement, je voulais vous demander, puisqu'on voit bien que nous aidons, Union européenne, le Niger, pour des questions humanitaires, hein, on aide vraiment à se développer et à faire en sorte effectivement qu'il arrive à relever notamment son défi démographique, mais aussi en matière de santé, en matière d'éducation. Cela dit, c'est quand même aussi un pays par lequel passent énormément de migrants. Alors est-ce qu'on peut aussi dire qu'on aide le Niger parce que c'est une sorte de plaque tournante de l'immigration irrégulière ?
Mais toute la région de l'Afrique de l'Ouest est dans cette situation. Vous avez cette plaque tournante, la drogue, qui réalise très peu de valeur ajoutée dans cette partie du monde. Et c'est de la drogue qui transite vers l'Union européenne. Et vous avez en même temps un crime organisé dans cette région qui bat des records. Donc vous avez une concentration de problèmes, de défis dans cette région qui nous explique que cette région, et notamment le Niger, a encore besoin de nous. Il faut organiser la sécurité. Ils n'ont pas les moyens de surveiller tout ce qui constitue une menace à leur sécurité. Donc il va falloir mettre en place des structures, des infrastructures. Ils n'ont pas l'argent. Donc ces pays qui, naguère encore, dépendaient dans une très large mesure pour ce qui est du développement agricole, du développement intégré, de la santé, dépendent encore davantage pour ce qui est du développement de leur sécurité. L'investissement dans les drones, l'investissement dans les forces de sécurité, tout cela est un vrai défi. Et si l'Union européenne fait la sourde oreille à l'appel de ces pays qui veulent l'aide de l'Union européenne dans ce domaine, nous passons à côté de nos priorités.
C'est-à-dire que l'Union européenne a un intérêt stratégique à aider les autorités locales à contrôler les flux migratoires dans la région, pour éviter notamment peut-être que les migrants n'arrivent jusqu'en Europe ?
S'attaquer aux causes fondamentales des migrations, c'est s'attaquer à la pauvreté. Donc, de ce point de vue, les interventions de l'Union européenne dans le domaine humanitaire et dans le domaine de la coopération au développement sont essentielles. Les interventions dans le domaine de la santé sont essentielles. C'est la raison pour laquelle nous devons développer davantage ces infrastructures. La crise d'Ebola nous a encore montré à quel point la situation et les causes de l'insécurité en matière de santé sont systémiques. Elles sont systémiques parce qu'il y a un haut degré de pauvreté. 85% de la population vit dans la pauvreté absolue. La moyenne de scolarité dépasse rarement les 5 ans, en moyenne. Vous avez aussi une crise systémique, au niveau de la gouvernance. C'est à ça que doivent faire face tous ces pays, notamment le Niger.
Mais que répondez-vous aux ONG qui s'inquiètent, Monsieur Goerens, qu'une partie de l'argent finalement qui doit être destiné au développement puisse peut-être passer à la sécurisation des frontières, à des choses comme ça qui sont plus en rapport avec l'immigration clandestine ? Oxfam notamment avait tiré la sonnette d'alarme en disant il faut sanctuariser en quelque sorte l'argent qui va uniquement à l'aide au développement.
Je souscris les deux mains à ce qu'a dit Oxfam et j'ajouterais que l'Union européenne, même si elle est le premier bailleur de fonds dans cette région, est loin du compte. Elle avait promis d'accroître à 0,7% son aide publique au développement par rapport au produit intérieur brut en 2015. On est en 2015. L'effort de l'Union européenne, Commission, États membres confondus, est inférieur à 6 promille, à 0,6%. Un pays comme la Finlande a annoncé vouloir réduire de 40% son aide publique au développement. Les Pays-Bas ont aussi épousé cette tendance. Il n'y a que 4 pays, la Suède, le Danemark, le Luxembourg et le Royaume-Uni, qui sont en fait à 0,7%. Ajoutez à cela une forte ponction des disciplines susceptibles de répondre aux impératifs de lutte contre le changement climatique sur les fonds mis à disposition pour la lutte contre la pauvreté. Et de plus, vous avez des interventions humanitaires de plus en plus importantes en Syrie, en République centrafricaine. Et les investissements, ou plutôt les interventions dans le domaine humanitaire, sont presque toujours des réponses à un échec. Donc l'argent, fortement convoité, de l'aide au développement, a une tendance à la réduction qui est absolument irresponsable. Donc il faut pas seulement faire l'aide au développement, mais aussi la sécurisation de ces pays. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre à la fois.
Merci beaucoup, Monsieur Goerens, d'avoir participé à ce magazine de la rédaction. Je rappelle que vous êtes eurodéputé luxembourgeois. Merci donc à la radio luxembourgeoise 100,7 qui vous a accueilli dans ses studios Niger quand le pays s'éveillera. C'était un reportage signé Valérie Crova, réalisé par Annie Bro, à la technique José Bernès. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission pendant 1000 jours sur notre site, la podcaster pendant un an et la commenter sur franceculture.fr grâce à Catherine Pétillon.